le midi.
Dans les prochaines minutes, si vous êtes un motocycliste, ça vous tente d'aller faire un tour à l'Expo Moto, ben on est de retour au centre de foire du 7 au 9 février. Donc, ça commence dans quelques jours, les amis. Puis, je vais avoir une paire de billets pour vous autres. Donc, juste restez à l'écoute de la prochaine chronique. Puis, soyez attentifs. La question que je vais vous poser, ça aura peut-être un lien avec Pat Raymond, qui est notre chroniqueur financier du podcast Financièrement parlant. Salut, mon ami!
Allô!
Très content de te voir. Ça va bien, ça va bien. Ouais. Faut que je monte le son. Je sais pas si c'est parce que je suis plus sourd.
Non,
je
l'entendais pas aussi.
Tu l'entendais pas?
Non.
Bon. Voilà, c'est fait.
Je suis là, là.
Oui.
T'es là.
Oui.
Dans vos oreilles.
Dans vos oreilles. T'as-tu joué à bourse dans les dernières heures, les derniers jours? Parce que là, ça a été payant.
Ben, je m'amuse là-dedans un petit peu. Mais tu sais, il faut toujours être prudent. Quand on le partage en ondes, pour ne pas influencer les gens, là, évidemment, je n'ai jamais recommandé un titre boursier en particulier.
Tu te ferais taper ses doigts.
Mais personnellement, oui, mais c'est ça, on n'a pas le droit. Puis avant ça, j'étais conseiller. Maintenant, je ne le suis plus, mais je n'ai pas plus le droit de toute façon. Même comme conseiller, on ne pouvait pas en parler. Mais entre nous, des fois, on dit « Hey, t'as-tu vu tel titre? Hein? » Tu sais, des fois, t'as eu un moins 15, moins 20, moins 25. Puis tu dis « J'embarque-tu dedans pour le fun, juste pour l'essayer? » Puis là, soudainement, t'es surpris le lendemain. Parce que là, il a fait « Ah, wow! » Il a fait tant. Et là, tu dis « Qu'est-ce que je fais? Je vends-tu? » J'ai mis 5 000, j'ai mis 10 000, ou j'ai mis 1 000. Puis là, je viens de faire quelques centaines de dollars comme ça en valeur. Qu'est-ce que je fais? Je vends, je prends mon profit. Merci, bonsoir, j'étais chanceux. Ou je le laisse dormir un peu, je le laisse flotter avec des possibilités d'en faire plus. Là, c'est là où des fois on compare la bourse, Yann, avec le casino. Tu sais, quand on est à court terme, là, dans la même journée ou
ouais, moi, je vois pas ça comme le casino. Là, je suis pas assez riche, mais je comprends ce que toi, tu veux dire.
Non, mais il y a du risque.
J'en parlais avec Pascal ce matin. T'sais, moi, j'ai lu un des livres de Tony Robbins. Il y en avait à peu près 75. Là,
oui.
Mais dans un, il mentionne que vous devez trouver un moyen de faire de l'argent en faisant rien ou de faire de l'argent en dormant. Puis depuis ce temps-là, moi, je joue à la bourse, mais je joue d'une façon extrêmement prudente. J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes avoirs pour justement faire fructifier mes trucs que je mets de côté. Mais moi, je joue à la bourse avec à peu près 10 % de ce que je passe, de ce que je place. J'ai lu un autre livre de Warren Buffett que je trouve franchement intéressant. On en a parlé, toi et moi.
Oui.
Lui, il disait, profitez de ce qui se passe dans l'actualité pour voir les coups qui s'en viennent d'avance. Je le savais qu'avec la décision de Trump, tout le monde était en alerte, là, tant aux États-Unis qu'au Canada. Ben, il allait avoir un petit glitch. Ça allait descendre un peu vers le bas parce qu'il y avait de l'incertitude. Ben, hier, j'étais allé sur mon Disnat, j'ai placé mes tomates.
T'en as profité.
Puis mes tomates ont poussé. Puis aujourd'hui, ben, j'ai récolté ce que j'ai planté hier.
Mais c'est un risque, aujourd'hui.
C'est un risque, oui et non, parce que si tu appliques la fameuse technique de Warren Buffett, c'est-à-dire tu magasines quand c'est à rabais, quand tu vas chez Jean Coutu, là, papier de toilette, tu prends le moins cher, tu vas tout le temps arriver dans ton argent. Ça va-tu être 5, 10, 2, on ne sait pas. Mais dans ce cas-ci, moi, j'ai misé sur Apple hier. Puis ça a bien été, en une journée, j'ai fait beaucoup d'argent.
Mais là, tu parles d'une compagnie qui a une grande capitalisation boursière, la plus grande, si on veut. C'est pas comme une autre compagnie XYZ où là, tu te dis « Hey, ça a perdu de temps. » Ou t'es dans un penny stock, puis « Ah ouais, j'embarque, puis je swing un 20 000 là-dedans. » Puis le lendemain, il était 10 000. Puis là, t'en as pour 4 ans à entendre que ton 10 000 flotte. Là, puis que tu vas... Fait que c'est... Il y a beaucoup de...
Warren Buffett dit « Magasiner quand c'est en rabais. »
Absolument, parce qu'il y a beaucoup de fondamentales, ça, je voulais dire. C'est que c'est certain que là, tu es allé vers une compagnie. Le pire scénario, par exemple, si Apple n'avait pas remonté ou peu importe, bon, on ne recommande pas de peu importe le titre.
J'aurais attendu.
À la limite, c'est une question de temps.
Ouais.
Mais toi, tu es en train de dire que le montant que tu as mis, par exemple, dans Apple, tu étais prêt à attendre.
Exact.
Quand même que ça prendra un an, je pense pas qu'Apple va faire faillite d'ici 5 ans. Donc, c'est ça le risque. Tu le laisses quand même vivre là-dedans, puis à un moment donné, il va grandir, puis c'est correct. Fait que c'est ça, tu as des sites boursiers des fois de qualité, tu as des sites boursiers de mauvaise qualité. Te palantir aujourd'hui, tu vois qu'il a fait 25, 26 %. Je ne sais pas 26%. Combien c'est rendu là, juste aujourd'hui. Là. ça veut dire que... Non, mais des fois, c'est plate, ça fait mal quand on le dit, mais si j'avais mis 10 000 là-dedans hier, ben, serais-tu à 12 600? Ça ne veut pas dire dans quel timing tu serais arrivé, mais oui, tu aurais peut-être fait 2 000 dans une journée. Mais là, quand tu continues ça dans l'année, ça se peut qu'après ça, le surlendemain, tu vas perdre 3 000. Puis à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui font du day trading dans des séances, là, comme on dit, de à la journée, qui, à la fin de l'année, un dans l'autre... On fait des bons coups, des mauvais coups, Puis ils peuvent pas dire nécessairement que ça a été si payant que ça pour le stress subi. Puis le niveau de risque.
Moi, j'ai pas une heure assez solide individu. Pour faire du day trading. J'ai fait la formation avec Gaëtan Royer de Cobalt Investissement.
Ben oui.
J'ai adoré, mais c'était juste pour parfaire mes connaissances au niveau de la bourse. Puis ça m'a grandement aidé. Mais faire ça tous les jours, regarder ce qui monte, ce qui descend.
Ça prend du temps aussi.
C'est à chaque fois, je vois comme.
Du temps, c'est de l'argent.
Je peux acheter du linge à mes gars. Non, finalement, je vais être obligé de vendre le linge de mes gars. <C'est>... oublie ça.
SPS sur Marketplace.
C'est quand même beaucoup de stress. Il y a des gens qui sont très cartésiens, qui sont capables d'être là-dessus, puis de vraiment faire leur analyse fondamentale, puis des fois, au niveau des graphiques, puis ils suivent leur résistance, puis etc. Puis c'est super, moi, je les félicite.
Parce que c'est excitant, là. T'es-vous aller sur TikTok?
Il y a côté excitant, effectivement.
T'es-vous aller sur TikTok? Là, ils te montrent juste leur bon coup, là. Ils sont avec leur ordinateur, puis là, ils programment leur ordinateur. Quand ça va commencer à monter, t'achètes là, puis à partir du moment où ça commence à descendre, tu le vends là.
Ouais.
Puis là, pouf, il se fait 300$, mettons, en deux minutes. Mais là, il met ça sur son TikTok. Combien il a perdu avant, ça, on ne sait pas. Mais son bon coup, là, il te le montre, puis tu te dis, hey, peut-être que ça pourrait être moi, le prochain Elon Musk. Il y en a plusieurs.
Mais il est là, le risque.
Il y en a plusieurs qui se sont essayés, tout le monde s'est cassé la gueule. Mais il faut que tu fasses ça. Il faut que tu prennes des cours là-dedans. Il faut que tu t'intéresses à ça.
Monsieur,
comme toi,
monsieur, madame, tout le monde n'a peut-être pas aussi la disponibilité de temps. Pas nécessairement l'argent pour le risquer. Dans le fond, l'argent devient ton outil. Fait que si tu joues avec 100 000, c'est un 100 000, il ne faut pas t'aider de besoin.
Hey boy, ouais.
Parce que c'est avec ce 100 000-là. L'argent, c'est un levier. Tu sais, je l'ai dit souvent ici. Tu as raison de mentionner de faire de l'argent en dormant. Et ça, quand on dit ça, des fois, c'est pas pour faire suer personne. Là. Mais c'est comme si tu veux évaluer si ta situation financière va bien, c'est combien d'argent tu fais quand tu dors. Que ce soit les rendements sur tes placements, que ce soit, par exemple, des plus-values sur tes immobiliers, ou carrément des revenus de royauté. Il y a des artistes qui reçoivent des royautés, qui reçoivent un per diem, peu importe. Combien d'argent tu reçois lorsque tu n'as pas à déployer de l'énergie physique ou tu n'as pas à vendre ton temps pour un employeur? Ben ça, des fois, il y en a qui disent, ben moi, je fais 1 000 par mois, 2 000 par mois, 3 000 par mois. Puis c'est ce qu'on appelle des revenus résiduels où j'augmente ma valeur à chaque année de quelques milliers de dollars sans travailler. Alors là, c'est très bien. Mais avec ce qu'on fait en travaillant, comment on le maximise? Monsieur, madame, tout le monde, je dirais que c'est un petit peu plus complexe pour la plupart parce qu'on a besoin souvent de tout l'argent qu'on gagne sur nos payes.
Exact. Parle-moi un peu des X, parle-moi un peu de la génération Y, même les baby boomers. Il y a des sondages qui sont sortis dans les derniers jours qui parlent de ces générations-là et de leur relation avec l'argent.
Oui, ben c'est ça, c'est le sondage Angus Reid. J'ai pris dans Finance et Investissement. Ben moi, j'ai peut-être le privilège d'être encore tout bien abonné à toutes sortes d'infolettes ou de trucs de finances. Donc, je suis resté branché, comme on dit, dans la gestion de patrimoine en général, malgré ma retraite depuis 2 ans. Je m'informe constamment. Puis des fois, j'essaie de vous trouver des trucs qui vont des fois peut-être plus faire réagir ou sortir un peu de ce qu'on entend beaucoup dans l'actualité. Puis là, j'ai dit, bon, j'arrive-tu en parlant de Trump et de l'actualité économique? Puis en même temps, on en parle quand même beaucoup. Fait que je me mets toujours dans la peau de monsieur, madame, tout le monde, peu importe la génération dont il fait partie. Puis ce qu'on aime, je dirais, c'est de se comparer. Je sais pas vous autres, mais on aime ça se comparer parce que des fois, on dit « Je suis trop endetté par rapport aux autres? » Ou « Je suis correct par rapport aux autres? »
C'est souvent le leverage des gens pour voir leur état financier.
Parce que des fois, ça peut être paniquant. Là. Toi, mettons, t'as 45 ans, t'as tout le temps vécu à la petite semaine, tu vis bien, t'as une maison, t'as une voiture, tes enfants manquent de rien.
Ouais.
Là, tout d'un coup, t'en rencontres un. Mettons, tu rencontres un patrimon là, qui a commencé à investir très jeune puis qui en a en masse de côté puis qui dit « Ouais, tu sais quoi, j'ai à peu près la même âge que toi, je pense que je suis en train de faire ma pré-retraite ou ma retraite, ça peut être paniquant quand tu commences à regarder les autres. Là.
Ben oui, absolument. Puis des fois, on se compare, on se console, mais on se compare. Puis c'est très relatif parce que, tu sais, je vous l'ai déjà dit ici, 1 million d'accumulés, ben c'est 40 000 par année de revenus passifs. Si on veut garder ça à long terme, il te reste 40 ans à vivre, tu peux pas le flamber. Fait que ça prend-tu, combien ça prend pour arriver à vivre très bien puis prendre une retraite de bonheur? Ça prend beaucoup quand même. Là.
Tu parles de ce million-là comme si c'était un lundi.
Oui, si tu parles comme si tout le monde avait ça puis ne pouvait pas flamber.
Non, mais les gens visent le fameux million, mais si tu restes 40 ans à vivre, là, je parle pas d'avoir 1 million quand tu es rendu à 70 puis 80, mais quand tu as 40 puis 45 ans puis tu veux prendre ta retraite, tu dis, moi, je vais atteindre 1 million puis je prends ma retraite. Ben 1 million, c'est 40 000 par année si tu ne veux pas épuiser
imposant.
Ton capital.
Ouais.
Là, ça dépend, il provient de quel genre de placement, puis c'est très relatif. Ça se peut qu'il y en a qui vont déchanter parce que t'as bien beau avoir des valeurs, puis d'avoir de l'immobilier ou d'avoir, tu peux t'accoter. Puis moi, ce que j'aime bien dire des fois, c'est que tu peux, en ayant des valeurs, tu peux t'accoter là-dessus pour aller emprunter. Et bien certainement que des fois, Yann et Pascal, juste entre moi puis vous autres, j'aime bien mieux payer du 7 % d'intérêt que de payer du 53 % d'impôt.
Très bon point.
Ça, là, il y a des choses là-dedans à comprendre qu'à un moment donné, d'emprunter l'argent pour rouler, et même pour alimenter un style de vie, de l'emprunter au lieu de la générer, payer de l'impôt, payer de l'intérêt. Des fois, le choix est là. Puis les gens d'immobilier le savent. Puis il y a Robert Kiyosaki qui en parle allègrement parce qu'ils vont dire, « Bien, moi, je ne suis pas imposé, je ne paye pas d'impôt. »
Père riche, père pauvre, lui.
Ben oui, je fonctionne simplement avec de l'endettement. Je ne suis pas en train de dire que moi, je fais ça.
C'est tout un livre, soit dit en passant.
Ah, c'est un de mes préférés, moi, de la décennie.
Ben, c'est un livre qui fait réfléchir parce que le papa, le père riche, père pauvre, ben, le père pauvre, c'est pas un père pauvre comme on l'entend, comme on le voit dans notre tête. C'est un père diplômé, éduqué, beaucoup, beaucoup de contenu. C'était quelqu'un de très, très instruit. Et c'est toujours une question de mentalité. Mais il faut retenir que, puis tu vois, si on se permet de passer à travers quelques questions du sondage, c'est quelle tranche d'âge qui était la plus affectée par les difficultés financières? Bien, la réponse, là, c'est la génération Y. Là,
oh, moi, j'aurais dit génération X.
Bien, non, ici, c'est Y. Les 29-44 ans. Puis cette génération-là est aussi celle qui a connu la plus grande hausse de prix de l'immobilier. Il y en a qui vont être contents, là. Ouais. Les boomers. En passant, moi, j'ai juste 55 ans. Je ne suis pas un boomer. Je suis un X, comme toi, mon cher Yann. En 1980, une maison là, coûtait combien de fois le revenu annuel? Puis je vais le comparer avec aujourd'hui.
1980. Une maison pouvait coûter... Je me suis fait raconter des 50, des 60 000, 70 000. Mais si on se réfère aux années 80, là, il y a eu des taux d'intérêt qui ont monté jusqu'à 21-22.
Oui, 82.
Comment ça pouvait coûter? Je suis-tu dedans? 60-70 à peu près?
Bien, tu vois, le rapport avec le revenu moyen, c'était trois fois le revenu annuel moyen à l'époque. Et c'est comme ça qu'on compare là, au prorata. Aujourd'hui, ce serait plus de 7 fois le revenu moyen. Et le revenu moyen, il est, on va dire, 60 000, faire un beau chiffron. Fait que là, 6 fois 7, ça fait 420 000. 400, on est pas mal dedans. Là, c'est un prix moyen d'une maison. Puis ça dépend de la région. Là,
ouais.
Là on a généralisé, c'est un sondage canadien. Fait que là, le revenu moyen par rapport à... Mais c'est quand même... Il y en a qui vont dire 9 fois, 8 fois, mais c'est plusieurs fois le revenu moyen, l'acquisition d'une maison, si on compare avec l'époque où on parlait de 3 fois. Quand même.
Mais il y a quand même des façons de s'en sortir pour cette génération-là. Je parlais avec un jeune de 20 ans qui, lui, voulait s'acheter une grosse maison puis qui se plaignait comme quoi le prix des maisons était beaucoup trop élevé. Ça donne que c'était un courtier immobilier. Il venait de finir son cours et tout ça. Mm-hmm. J'ai dit, mais tu sais que tu peux acheter un 3 logements avec un 5 % de mise de départ,
ben
passé
oui,
par les
ben
SCHL. Oui. Tu achètes un 3 logements puis tu n'es pas obligé d'acheter la grosse maison de départ, mais cet immeuble-là que tu vas payer va prendre de la valeur avec le temps. Puis toi-même, tu ne payeras pas dans le vide, plutôt que d'aller te chercher un logement qui va te coûter... Écoute, son logement avec sa conjointe, il coûte 1900$. Ils ont un 5,5.
Ah oui, hein?
1900$. Puis là, ben t'ajoutes l'Internet, t'ajoutes...
Les assurances
ben et tout ben ça. Ben ça ne fait plus. Il y a encore moyen, avec les divers leviers qu'on nous offre, là, avec la SCHL, entre autres.
Ouais.
Tu commences dans la vie, tu te dis, « Hey, condo, ça serait intéressant, mais je vais commencer avec un 3 logements. » Ça va coûter, mettons, un 3 logements, mettons, ça va coûter 400 000 si tu vas chercher dans le secteur Montmorency.
Oui, c'est ça.
Ça va te coûter, mettons 400 000, ça te coûte 20 000 $ de cash down. C'est intéressant.
Ben oui. Ben oui.
Il y en a qui vivent mal avec le risque, avec les taxes municipales, avec les taxes scolaires, puis le fait d'avoir des bons locataires. Il y en a qui veulent pas ça, que ça les stresse.
J'ai cette impression-là, Pascal, tu me diras peut-être que je erre, là, parce que je connais pas bien cette génération-là, mais... Ils voient leurs amis avec des belles grosses voitures. Ils voient leurs amis avec des belles maisons. Ils sont très Instagram, sont très TikTok.
Je pense que oui.
Ça représente la richesse. Fait que d'aller chercher un 3 logements puis de faire chier avec des locataires qui...
De travailler pour ton argent,
exact.
Finalement.
Ça le tente moins.
Ça se peut que ça joue, là.
C'est
je
clair
dis pas pour
que
tout le monde, mais...
Je sais pas...
Deux, je trouve que tu as les deux dispositions. Tu as vraiment ceux qui ont compris puis qui ont... Bon, fait en sorte qu'il n'y ait pas ce style de vie-là pendant un bout puis qu'ils sont rendus à un point où ils en profitent parce qu'ils se sont serrés... complètement le portefeuille, là. Puis t'as eu les autres qui ont voulu style de vie tout de suite, là.
T'as
je trouve
raison.
Que t'as les deux catégories.
tu peux pas t'enrichir avec un style de vie. T'sais, en partant, là, on évoque la logique. Là. Moi, je suis un gars, je suis capable d'être plate quand je veux avec l'argent. Là. Tu peux pas t'enrichir avec un style de vie. Si tu augmentes ton style de vie, tu t'appauvris. Tu peux pas. C'est impossible. Mm. Si tu veux t'enrichir, ça paraît pas.
Ouais.
C'est ça le piège. Et une grosse maison, je sais pas si c'était vous autres, j'ai dit ça, ou sur mon podcast, je parle tellement d'une journée d'argent, mais je le redis. C'est sûr que si j'avais 10 millions ou 15 millions qui rentrent d'un exit, j'ai vendu une entreprise, il y a un 10-15 millions qui entrent, c'est certain que je vais diversifier en achetant une maison de 3, 4, 5 millions avec une possibilité de marge de crédit hypothécaire dessus pour faire du levier, peu importe. Mais c'est certain, dans ma diversification, il y a une partie qui va être l'achat d'une maison pour l'exemption d'impôts avec une maison de 3, 4, 5 millions qui prendront de la valeur comme levier.
Puis encore là, tu sais, les gens se posent des questions. Il y a eu de ça, il y a de ça quelques années, Pascal, tu l'as certainement vu passer. À l'Île-Bizarre, Céline Dion avait sa maison avec Renan Jalil.
Oui.
Puis elle avait toujours une hypothèque dessus. Et là, les gens avec qui je travaillais à l'époque disaient, ça n'a pas de crise de bon sens, c'est Céline Dion. Là. C'est une artiste planétaire. Elle est multimillionnaire. Pourquoi elle n'a pas payé sa maison au cash? Ben, c'est parce que son cash, il est placé.
C'est parce que c'est un levier. Puis, règle générale, la maison, le taux d'intérêt, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les banques font leur vie avec ça. C'est qu'ils vont prendre de l'argent qui coûte moins cher, ils vont la relouer à du monde qui sont prêts à payer plus cher. C'est le loyer de l'argent, proprement dit, c'est le taux d'intérêt. Donc, tu dis, pourquoi j'immobiliserais mon cash dans une maison qui coûte 5-6 % d'intérêt? J'aime bien mieux faire travailler cet argent-là dans des entreprises privées, dans des projets privés qui peuvent rapporter 20, 25, 30 % dans le cas des entreprises privées. C'est risqué, oui, puis c'est différent. Mais mon exemple de maison, c'est certain que je peux faire quand même un beau rendement sur une maison de 4 millions qui, de toute façon, dans ma valeur, si moi je vaux 12 ou 15 millions d'une sortie de vente d'entreprise, pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, les gens gagnent 60, 70, puis ils s'achètent une maison de 400, 500, ils tirent à l'os. Tu sais, c'est trois fois ton revenu brut de ménage pour une hypothèque raisonnable. Il faut que tu prévois aussi tous les autres frais et l'argent que tu vas mettre d'avance dans un fonds de prévoyance pour changer les fenêtres, la toiture, etc. Mm-hmm. C'est trois fois le revenu brut de ménage. Puis les ménages, on sait combien ils gagnent, 120, 130 en moyenne. Donc, les maisons à 500 000, qui est quasiment le prix moyen aujourd'hui à Québec, à Montréal, c'est beaucoup plus que ça, ça ne cadre pas avec un revenu moyen de ménage. Mais ça passe pareil à la banque, parce que la banque ou la caisse vont aller des fois à 5 fois, 4 fois, 5 fois, ils s'étirent ça. Puis là, ben, ils vont demander peut-être plus de comptant, c'est correct. Mais pourquoi pas commencer avec un triplex, ça ne veut pas dire qu'avec ça, tu vas. C'est pas être Klondike, là. C'est certain que ça vient avec des responsabilités, comme tu dis, Yann. Puis Pascal a raison. Dans la génération où on veut peut-être pas trop de responsabilités, puis on est capable de bien paraître juste avec du crédit. Moi, j'ai pas de trouble avec le crédit lorsque c'est du levier, lorsque c'est pour réinvestir ou lorsque c'est pour éviter de payer justement 53 % d'impôts. Utilise ton crédit à 7 % Why not? Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les gens utilisent le crédit pour faire l'épicerie, puis pour consommer, puis augmenter son confort. Le confort, c'est la pire drogue qu'on peut pas avoir.
Ah, j'aime ça,
dans le confort, vous allez vous endormir carrément. Et après ça, c'est difficile de se réveiller. Fait que là, une petite note de croissance personnelle en terminant. Mais écoute, j'en avais 7-8 autres, puis je pense qu'on arrive au bout. Mais dans l'excitation, puis dans la discussion, c'est certain qu'on devient enthousiaste. Ouais. Là,
on apprend tout le temps.
Mais c'est le fun parce que ces sondages-là sont là pour alimenter des discussions, puis d'essayer de se comparer. Mais tu sais, vous êtes plus riche que vous le pensez. Ça, c'est une institution financière qui disait ça. Mais probablement que la plupart des gens se ressemblent beaucoup. 47 % des gens vivent de paye à paye. Il y a 50 % des gens qui sont stressés pour leur situation financière. Donc, une personne sur deux au Canada, stressée pour leur situation financière. Au Québec, moins stressée parce qu'au Québec, on a des services sociaux puis les gens se fient un peu au gouvernement puis on a un peu plus de sécurité, on dirait. Puis en vieillissant, c'est encore mieux pour vivre au Québec. Puis en étant vulnérable, c'est au Québec qu'on veut être. Mais en voulant devenir milliardaire, là, t'es plus bien au Québec. Tu dis, je vais aller aux États-Unis. Fait que ça dépend, c'est quoi tes aspirations?
On te suit sur ton podcast, financièrement parlant?
Oui, merci.
Merci beaucoup, Pat Raymond. Pascal, t'as-tu réfléchi à une question pour les gens qui trippent sur la moto? Moi, j'ai un concours.
Oui, vas-y, parle de ton concours.
Tu as choisi ta question?
Oui.
Allons-y. Je vous parle de motocyclistes, bien entendu. C'est l'Expo Moto qui est de retour au centre de foire du 7 au 9 février. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Boulevard 101 qui vous invite à cet événement-là. Plusieurs centaines de véhicules qui seront sur place. Ça va être le moment idéal pour acheter votre nouvelle moto sur place, qu'elle soit neuve ou encore d'occasion. Vous allez pouvoir l'acheter sur place. Si vous voulez, je ne sais pas moi, des bottes, des casques, ça va être là aussi. L'Expo Moto va vous combler. C'est un événement qui est familial avec accès gratuit pour les 11 ans et moins. Il y a l'initiation à la moto en toute sécurité pour les enfants grâce à l'Académie Miloland. Je vous le dis, moi j'amène mes gars-là à chaque année. Puis ils ont trouvé que les motos étaient pas pires, mais les essayer, c'est aussi pas pire. Donc pour l'occasion, on a justement une paire de billets à vous offrir. Le mot de passe, Pascal.
Notre ami Pat Raymond dit que le confort, c'est... Il vient de le dire, là.
T'es dur avec eux autres.
Trouve ça?
418-971-1021, 418-971-1021. Ça vous vaut une paire de billets pour l'Expo Moto.
Nous autres, si personne le trouve, je prendrai quelqu'un dans les réponses.
Bon, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Nous autres, on s'arrête pendant quelques secondes. On vous pousse dans vos oreilles. The Offspring, Pretty Fly for a White Guy sur Boulevard.